l'étude de l'évangile de Jean, étude systématique qui a commencé au début de cette retraite, fausse 7. Au chapitre 7, nous reprenons notre étude à la suite, c'est-à-dire au verset 14. Nous étions arrêtés à 13 hier. Verset 14, et nous irons jusqu'à 30. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, mais il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? » La foule répondit, « Tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir ?» Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugé selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir ? » Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Amen.
Amen.
Je rappelle que c'était la fête des tabernacles qui se situait au mois de Tisri, c'est-à-dire entre septembre et octobre, fête qui dure 7 jours, une semaine. Et depuis au moins 7 mois, le Seigneur n'était pas allé à Jérusalem parce que le complot contre lui était encore très vif et le Seigneur se soustrayait à la malignité des Juifs, son heure n'étant pas d'être maintenant livré. Et pendant ce temps, donc, il avait parcouru la Galilée. Mais voici que les frères du Seigneur l'invitent à venir à la fête. Il s'y refuse, puisque l'esprit de ses frères qui ne sont pas, qui ne croient pas, l'esprit de ses frères est celui du monde, il ne peut céder à l'esprit du monde, mais lui seul va monter, non publiquement, discrètement, il va monter à Jérusalem. Et nous le voyons ici, arrivant à Jérusalem vers le milieu de la fête, c'est-à-dire au moins 2 jours après le commencement de la fête, qui en durait 7, mettons 3 jours, si vous voulez, après le commencement de la fête. Et voici que Jésus paraît au temple. il va droit au temple et se met à y enseigner. Ce que faisait le Seigneur Jésus, c'est d'enseigner. Enseigner la vérité. La vérité est une chose qui doit être enseignée, chers amis, et enseigner est un grand devoir au milieu du peuple de Dieu. Et pourtant, là, Jésus se trouvait au milieu de juifs, au milieu de ce qui restait du peuple de Dieu, et nous voyons que son enseignement n'était pas reçu par tous, loin de là. Mais Jésus enseignait. Non seulement il proclamait le royaume de Dieu, mais à beaucoup d'autres instants, il enseignait et il enseignait longuement. C'est aujourd'hui ce qui nous fait bien défaut dans nos églises, mes amis, c'est qu'on n'enseigne plus. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais des frères l'ont dit, on n'enseigne plus au milieu du peuple de Dieu, c'est fini. On fait bien un peu d'exhortation, n'est-ce pas, et encore ça ne prend pas grand place le dimanche matin, et quelquefois dans la semaine, une fois par semaine, n'est-ce pas, un peu d'exhortation à la réunion de prière, et puis c'est tout ce qu'a le peuple, il n'est pas enseigné, le peuple lui-même médite peu, et c'est pour ça que le peuple, que voulez-vous, perd toute force, et que la vision du peuple s'éteint. C'est pour ça que la vision s'éteint au milieu de nous, mes amis. La vision s'éteint, il ne faut pas se faire d'illusions, ça s'éteint, ça baisse. Et je vous ai rappelé que ici, dans cette même maison, au cours de cette année, à deux reprises, pendant deux jours chaque fois, plusieurs pasteurs, une trentaine de pasteurs se sont réunis pour étudier la chose, étudier les causes. On a dénoncé beaucoup de choses qu'il fallait dénoncer. On a dit beaucoup de choses vraies, n'est-ce pas ? Il faut demander à Dieu que tout cela puisse entrer dans la pratique. On n'enseigne plus de tout sens, l'enseignement n'a plus sa place aujourd'hui dans l'Église, la place qu'il faudrait. Vous me direz, c'est le temps qui veut cela, on est trop occupé, on ne peut pas se déplacer dans les villes, hein, et on est fatigué de sa journée, de son travail, on ne peut pas encore le soir se rendre fréquemment à l'Église. Je sais qu'il y a cela. Mais il faudrait demander au Seigneur tout de même que le peuple de Dieu puisse être enseigné, car sans enseignement, il ne peut pas tenir. C'est donc la surprise à Jérusalem de voir surgir le Seigneur Jésus et le voir, l'entendre enseigner dans le temple les intentions criminelles des chefs des Juifs se sont, pour un temps, désarmés. Il faut bien dire, naturellement, que Dieu le Père a donné au Fils cette entrée dans le temple. Il suffit au Fils de faire ce que le Père lui ordonne, et cela doit s'accomplir. Personne ne peut empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et que font ces Juifs? Ils écoutent cet enseignement. Ils écoutent. Et il s'en étonne, car Jésus cite couramment les Saintes Écritures. Il s'appuie beaucoup, largement, sur les Saintes Écritures. Ce qu'il enseigne, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque c'est l'accomplissement. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu pour l'accomplissement. Donc, ce n'est pas nouveau, si vous voulez, en ce sens qu'il se sert, qu'il parle les Écritures pour montrer qu'elles avaient une force prophétique et que maintenant elles vont s'accomplir véritablement. Il cite les Écritures avec autorité comme le plus sûr des docteurs, si bien que les Juifs se demandent d'où lui vient une pareille science. Il est de notoriété, en effet, que Jésus n'a jamais suivi les enseignements des écoles rabbiniques. On ne l'a jamais vu, on sait très bien qu'il n'a jamais fréquenté une école rabbinique, et c'est là un mystère pour eux. Car non seulement les Saintes Écritures leur paraissait ne pouvoir être connue qu'après un temps suffisamment long d'école, mais en plus, la langue des Écritures, l'hébreu ancien, n'était pas du domaine des connaissances courantes. On ne parlait pas l'hébreu, mais l'araméen, qui est différent, n'est-ce pas ? Et il fallait donc être lettré pour pouvoir parler des Écritures, les citer, en avoir pris connaissance dans les rouleaux, il fallait être lettré. Alors tout cela, évidemment, était un sujet de grand étonnement pour les Juifs. Jésus va répondre à cette préoccupation et affirmer que sa connaissance et son enseignement, il les tient de quelqu'un, bien sûr, il est le disciple de quelqu'un, il n'invente pas, ce n'est pas lui-même qu'il dit cela, il a été à une école. Il a été à une école, mais non pas à celle des hommes. Ce qu'il enseigne, il le tient de celui qui l'a envoyé. Nous remarquons que Jésus parle rarement directement du Père, n'est-ce pas, mais toujours par le moyen indirect d'une expression comme « celui qui m'a envoyé ». Et la preuve qu'il apporte l'enseignement de la part de celui qui l'a envoyé, de la part de Dieu, Jésus était prudent pour ne pas nommer Dieu, n'est-ce pas ? On ne pouvait pas lui faire ce grief, il le nommait rarement. Mais les Juifs comprenaient très bien qu'il s'agissait de Dieu. La preuve, la voici. Tout homme qui recherche sincèrement à connaître la volonté de Dieu, désirant accomplir cette volonté, tout homme, donc, qui recherche à connaître la volonté de Dieu, saura, à coup sûr, en lui-même, reconnaître que la doctrine de Christ est bien de Dieu. Donc, c'est uniquement en raison de bonnes dispositions intérieures que l'on peut savoir, et cela c'est une règle énoncée ici par Jésus, c'est en raison de bonnes dispositions intérieures qu'on peut savoir d'une manière absolument certaine que la parole de Christ est bien la parole de Dieu. Voilà ce sur quoi le Seigneur s'appuie. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra en lui-même, il aura lui-même, en lui-même, l'assurance que ma doctrine est de Dieu. Autrement dit, que la parole de Christ, plus loin, Christ va parler de ma parole, celui qui garde ma parole, eh bien, sa parole ou sa doctrine, c'est la parole de Dieu. Cette assurance vient donc s'il y a dans le cœur de l'homme de bonnes dispositions. Les humbles, les pauvres en esprit, ceux qui ont soif de Dieu, ceux qui ont soif de la justice de Dieu, ne seront jamais dans la perplexité. Ils reconnaîtront intérieurement que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'il est la vérité, et que Dieu a bien parlé par lui. Nous en tirons donc ce que Jésus a dit là aux Juifs, naturellement, c'est toujours valable pour nous, c'est une règle, c'est une loi que nous pouvons énoncer d'une autre manière. Nous pouvons l'énoncer, par exemple, comme ceci. La foi n'est pas déterminée par la raison de l'homme, mais par le cœur. Autrement dit, si quelqu'un veut se convaincre, veut essayer, c'était le cas des Juifs, ils auraient voulu obtenir une conviction, c'était leur raison qui était en éveil, qui était à l'œuvre, qui cherchait, c'était leur raison et non leur cœur. Ils auraient voulu être apaisés dans leurs doutes, hein, que leur raison puisse comprendre par des preuves qui étaient à leur portée, comprendre que Jésus était le Messie. S'ils avaient pu avoir ces preuves-là, peut-être se seraient-ils tenus tranquilles, mais la foi n'est pas du domaine de la raison, elle est du domaine du cœur. Et le cœur bien disposé obéit à l'Esprit de Dieu que Christ manifeste. Mais si le cœur est mal disposé, ce cœur n'écoutera jamais la raison, même si la raison reçoit certains apaisements, même si les démonstrations que l'on a pu s'ingénier à fournir sont momentanément jugées satisfaisantes par la raison, cela ne va pas déterminer la foi si le cœur est mal disposé, s'il y a des contestations dans le cœur, n'est-ce pas, du trouble dans le cœur, si l'homme ne s'humilie pas, si l'orgueil est encore là, bien attaché au cœur de l'homme, il n'y aura jamais de foi. La raison se met au service de l'orgueil humain, toujours. La raison de l'homme, et vous voyez aujourd'hui, n'est-ce pas, notre temps, est rempli d'orgueil, comme a dit le prophète Ézéchiel. L'orgueil s'épanouit, c'est pour notre temps qu'il a dit cela. Tous les hommes, même ceux d'apparence modeste, ce sont quelquefois les plus orgueilleux, ceux qui ont l'apparence modeste, chers amis. Dans les universités, dans les milieux savants, vous voyez des gens quelquefois à l'air modeste, n'est-ce pas ? Eh bien, ce sont les plus orgueilleux, ceux qui veulent imposer le plus fortement leur vue aux autres. Donc la foi n'est pas déterminée par la raison, mais par le cœur. Nous devrions savoir cela, chers amis. Et souvent, l'on me demande d'apporter toutes sortes d'argumentations pour convaincre des gens qui ont une certaine culture et qui résistent, qui discutent sans cesse. On veut me faire un travail vain. Je m'y refuse. Je veux bien répondre à certaines préoccupations. Mais si je m'aperçois que le cœur est mal disposé, et si je m'aperçois que l'interlocuteur cherche en réalité, n'est-ce pas, des convictions pour son intelligence humaine, pour sa raison, je m'y refuse. C'est un travail qui n'aboutit à rien. À rien. Absolument à rien. Et mes amis, ne soyons pas, nous, étrangers à cette loi que le Seigneur Jésus a énoncée ici, et que je formule ainsi, la foi n'est pas déterminée, n'est pas mise en œuvre, en mouvement, par la raison, par des satisfactions obtenues par l'intelligence humaine, mais elle est mise en mouvement si le cœur est bien disposé. S'il y a les bonnes dispositions dans le cœur, alors le Père enseignera, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire il attirera par un enseignement au Fils, et il donnera au Fils, et le Fils révélera le Père. Voilà les choses telles qu'elles sont. Il y a une voie, il n'y en a pas plusieurs. Alors, sachons ces choses pour l'évangélisation, pour le témoignage à l'égard des personnes, et ne cédons pas à cette pensée absolument folle de vouloir convaincre les gens qui raisonnent, n'est-ce pas ? Et si nous voyons que, dans le fond, ils n'ont pas du tout envie de se convertir, ils n'ont pas du tout envie de céder à Dieu, pas, voyez-vous, et ils font là un mauvais travail, ils vous engagent dans une mauvaise voie. Le cœur mal disposé, nous pourrions lire un verset dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, et le verset 2, ou verset 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voyez-vous ça? Ça, c'est une autre C'est la même pensée, un peu différente, si vous voulez, mais elle s'apparente beaucoup avec la pensée que nous venons d'exprimer. Et il nous est dit ici la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Autrement dit, n'est-ce pas, la foi qui va s'attacher au Seigneur Jésus-Christ et qui va obtenir l'action de l'esprit de vie venant de Jésus-Christ affranchira l'homme du joug du péché et du joug de la mort, de la puissance de la mort. Voilà, n'est-ce pas, le grand secret, il est là, et les raisonnements ne servent de rien. J'ai trop souvent, dans les années passées, entendu d'excellents frères qui voudraient faire, bien sûr, œuvre bonne, et qui s'ingénient, soit sur des petits traités, soit en prêchant, à faire toutes sortes de démonstrations pour prouver aux gens. Mais c'est pas ça le travail, toucher leur cœur. Et s'il y a vraiment de mauvaises dispositions dans le cœur, vous ne ferez rien. Vous ne ferez absolument rien. Christ n'a pas pu amener la foi chez beaucoup de ses auditeurs. Vous ne ferez pas mieux que Christ. C'est donc par le cœur que la foi peut naître. Au verset 18, nous lisons « Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. » C'est encore une loi que Jésus énonce ici. Si l'on se trouve devant un homme, en écoutant cet homme, en le voyant agir, eh bien nous devrions discerner une chose. Est-ce que cet homme cherche sa propre gloire, ou s'il cherche vraiment la gloire de Dieu ? S'il tend à se faire valoir, s'il s'efforce d'acquérir de la notoriété, s'il se hisse lui-même parmi les hommes en vue, s'il n'a plus de temps pour s'occuper des humbles et des petits, parce qu'il est trop préoccupé d'avoir l'appui des grands, s'il aspire à s'entourer d'activités trépidantes, débordantes, qui attirent l'attention sur lui, cet homme cherche sa gloire. Et il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. C'est une loi que le Seigneur nous donne ici. Il n'est pas vrai. Il n'est pas approuvé de Dieu. Il ne marche pas dans la vérité et n'a pas la vérité en lui-même. Regardons par exemple dans ces deux dernières épîtres, la deuxième et la troisième, lui qui parle d'avoir la vérité, de marcher dans la vérité, lui l'ancien parmi d'autres anciens, cet apôtre Jean pourtant qui a reçu un ministère éclatant, magnifique, lui qui avait vocation à exprimer l'amour, exprimer cet évangile, écrire cet évangile, écrire la première épître, écrire l'Apocalypse. Il a eu cette vocation, il a été gardé par le Seigneur pour ça. Mais c'est magnifique, n'est-ce pas ? Eh bien, tout humblement, ancien parmi les anciens, se réjouit de trouver la vérité dans des hommes simples, des hommes qui vont qui vont dans leur foi, mais qui ne s'en écartent pas et ne cherchent pas leur gloire. Si un homme, au contraire, et cela c'est à nous, je le répète, de discerner, si un homme n'aspire qu'à glorifier Dieu, ne se préoccupe point de lui-même, dédaignant même toute publicité sur sa personne, celui-là ne peut être que vrai. La fidélité d'un homme exige de lui qu'il ne cherche aucune gloire pour lui-même, mais qu'il se glorifie dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Bah, autrement dit, qu'il se laisse, qu'il s'offre pour être recouvert de la gloire du Seigneur, celle-là seulement. Et Jésus est le parfait exemple, bien entendu, de cette ligne de conduite. Jésus montre aux Juifs qu'il ne cherche pas de notoriété, qu'il s'efface, qu'il se retire, qu'il ne cherche aucun poste, il n'a pas voulu qu'on le fasse roi, et il vient seulement annoncer avec fidélité tout le conseil de Dieu. Donc, il ne peut pas être autrement que vrai, il ne peut pas dénoncer autre chose que la justice. Il n'y a point d'injustice en lui. Et nous pourrions dire, chers amis, que nous touchons là à la grande preuve de ce que la Bible est le livre de Dieu, le livre inspiré de Dieu. Car la Bible, elle, répond à ce critère. Elle répond à cette loi que nous venons d'énoncer. La Bible a été écrite par une quarantaine d'écrivains sacrés, d'hommes inspirés, désignés par Dieu pour ce faire. Et la Bible tout entière glorifie Dieu. Et bien qu'elle soit écrite par des hommes, elle raconte sans rien omettre et sans rien voiler les abominations qui ont été commises, non seulement parmi les peuples, mais parmi, au milieu du peuple de Dieu même. Elle raconte les abominations dont l'homme est capable de connaître, même les hommes qui composent le peuple de Dieu. Elle manifeste la méchanceté de l'homme. Elle manifeste son état de péché. Elle manifeste la révolte de l'homme. Elle le juge sans pitié, sans faiblesse. Et elle propose à l'homme un salut qu'il doit saisir. Où? Comment? Dans la repentance. Dans l'abaissement. Eh bien, nous pouvons dire, la Bible est vraie. Les hommes qui l'ont écrit n'ont pas cherché leur gloire, car sans quoi, un Pierre, par exemple, se serait bien gardé de parler de certains incidents qui n'étaient pas tout à fait à son honneur. N'est-ce pas? Et dans d'autres circonstances aussi, nous voyons que les hommes n'ont rien caché. Rien caché. La faute de David, elle est là qui s'étale. Et pourtant, David était un grand serviteur de Dieu, un magnifique serviteur de Dieu. Il a commis une faute terrible. Elle est là, en bonne place dans la Bible. Il faut qu'on voit. Rien n'est dissimulé, rien n'est caché. De la faiblesse de l'homme, des périls que l'homme encourt lorsque il ne reste pas dans la main de son Dieu. Ainsi, la Bible est vraie. Il en sera un de tout homme, mes amis. Ayez ce discernement. Prenez garde. En ce moment, il y a des hommes qui écrivent, qui parlent. N'allez pas vers n'importe qui. Vous êtes dans des églises, c'est déjà une grande sécurité. N'allez pas vers n'importe quel homme. Ne vous laissez pas attirer par n'importe qui. Et si ceux qui l'ont fait, eh bien, ils ont quelquefois été entraînés dans de très mauvaises directions. Des hommes qui cherchent leur gloire avant celle de Dieu. Et s'ils cherchent leur gloire, d'ailleurs, ils ne cherchent pas celle de Dieu. Ceux-là ne sont pas vrais. Ils peuvent dire des choses qui provoquent l'enthousiasme. Ils ne sont pas vrais. S'ils ne sont pas humbles, si un homme parle et n'est pas humble, s'il n'a pas, s'il ne recherche pas la gloire de celui au nom de qui il parle, s'il ne recherche pas la gloire de Dieu, la gloire de Christ, s'effaçant lui-même comme l'a fait Jean-Baptiste, eh bien, celui-là n'est pas vrai. Il ne faut pas l'écouter. Et puis, le Seigneur va entrer dans une démonstration parce que la chose qui est toujours en question à ce moment-là, au milieu des Juifs, c'est cette fameuse guérison qu'il a faite, qui est rapportée au chapitre 5 de l'Évangile de Jean, la guérison de l'impotent qui était à la piscine de Bethesda. Et malgré les mois qui se sont passés, cette circonstance est toujours là présente. Il faut penser, n'est-ce pas, que ça a été vraiment un éclat, cette guérison. Cet homme qui était là depuis 38 ans, tout le monde le connaissait, bien sûr, là. Et puis, son infirmité était certainement très lourde. Et voici que, par une parole, cet homme avait été relevé, s'était mis à gambader, à courir en portant son lit, n'est-ce pas? Il avait rencontré Jésus et il avait reçu aussi le pardon de ses péchés. Tout cela s'était connu des Juifs. Ça avait produit une grande sensation et le souvenir en était encore très vif. Or, tout cela s'était passé un jour de sabbat. Un jour de sabbat. Et les Juifs tiraient motif de cette guérison survenue un jour de sabbat pour accuser le Seigneur de violation de la loi de Moïse. Et c'est à quoi le Seigneur va donc répondre. Et il va répondre de la manière suivante. Vous êtes attaché, dites-vous, par principe, à la loi de Moïse. Ça, c'est ce que vous affirmez. Mais en réalité, cette loi, vous en êtes les premiers transgresseurs, vous la violez. Vous ne la mettez pas en pratique. Et nous pourrions, bien sûr, pour cela, nous rappeler ce que dit Paul, n'est-ce pas ? Toi qui te donnes le nom de juif, toi qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Mes amis, c'est un passage puissant, celui-là, c'est dans Romains 2, là, ce que je viens de vous lire. Eh bien, telle était la situation. Ils disent et ne font pas. Leur jettera le Seigneur en d'autres circonstances, n'est-ce pas, à la face. Ils disent et ne font pas. Eh bien donc, le Seigneur leur montre que leur attachement à la loi, la gloire qu'ils se font de la loi, ça ne va pas du tout avec la réalité de leur vie. En vérité, ils sont les transgresseurs de la loi. Or, ces transgresseurs de la loi, ce sont eux qui veulent accuser Jésus, qui veulent le faire mourir, avec le prétexte, bien étonnant, d'avoir violé la loi. Eux qui violent la loi, constamment, ils reprochent à Jésus de l'avoir violé. Et de l'avoir violé comment ? En guérissant le jour du sabbat, c'est-à-dire en faisant le bien. Eux, ils violent la loi en faisant le mal. Mais celui qui, selon leur vue, viole la loi parce qu'il guérit un homme le jour du sabbat, en admettant que ce soit une violation, le Seigneur va montrer que ça n'en est pas une, mais en admettant que ce soit à leurs yeux une violation, cette violation en tout cas, elle était pour le bien, tandis qu'eux, ils transgressent la loi en faisant le mal. La foule, dans un verset, là, le verset de 20, la foule conteste l'intention de mettre à mort Jésus et la foule lui dit que cette pensée lui vient d'un démon. Il doit être possédé d'un démon pour avoir cette mauvaise idée qu'on cherche à le mettre à mort. Jésus va poursuivre sa démonstration sans répondre à cette dernière hypocrisie de la foule. Ce que Jésus voit dans le cœur des gens, il sait très bien qu'on veut le mettre à mort. D'ailleurs, un peu plus loin dans le même, dans notre passage, n'est-ce pas, nous voyons bien que la foule le sait, puisqu'il est dit, quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Donc vous voyez que la foule savait bien qu'on cherchait à faire mourir Jésus. Mais là, n'est-ce pas, entendant Jésus dire vous, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Alors la foule répond, tu as un démon, qu'est-ce qu'il cherche à te faire mourir? Vous voyez l'hypocrisie de ces gens. Hypocrisie. Alors Jésus, devant cette hypocrisie, ne répond même pas. Il ne répond pas à cela. Il continue sa démonstration concernant la guérison survenue le jour du sabbat. L'argument de Jésus est celui-ci. Vous avez reçu de Moïse la circoncision, bien que la circoncision remonte plus loin que Moïse, ça remonte à Abraham, c'est le signe même de l'alliance conclue par Dieu avec Abraham. Seulement, Moïse qui donnait la loi connaissait cette circoncision et naturellement devait lui-même laisser place à cette circoncision qui n'était pas une ordonnance révolue. Alors, tout enfant mâle devait donc être circoncis le huitième jour après sa naissance. Mais il pouvait arriver que ce huitième jour tombe précisément un jour de sabbat. Et si tel était le cas, et on était obligé de passer au-dessus des prescriptions sabbatique qui interdisait toute œuvre, tout travail ce jour-là, et on devait circoncire l'enfant, bien que ce soit un jour de sabbat, c'était le huitième jour de sa naissance, on ne pouvait pas faire autrement, c'était formel, n'est-ce pas? Autrement dit, il y avait deux commandements qui en somme s'entrechoquaient là, n'est-ce pas, se heurtaient. Le commandement de la circoncision, qui disait le huitième jour. Et si le huitième jour tombait un jour de sabbat, eh bien il y avait alors les ordonnances concernant le sabbat qui disaient il ne faut rien faire, pas de travail, n'est-ce pas, dans ta maison, rien. Or ça, c'était une action, c'était quelque chose que, en principe, on aurait dû remettre au lendemain. Et cependant, on le faisait. Les Juifs le faisaient. Il n'y avait pas dans la loi de Moïse de solution à cela, à cette coïncidence, si vous voulez, n'est-ce pas, du huitième jour après la naissance d'un enfant mâle, avec le sabbat, que devait-on faire? Ce n'était pas réglé par la loi de Moïse, mais les Juifs avaient obéi d'abord à la circoncision, même le jour du sabbat. Hein? Ils avaient, la tradition avait assis cela, et tant pis, si c'était un jour du sabbat, on se livrait quand même à l'opération. Et tout cela, en somme, venait de Moïse, puisque c'est Moïse qui avait donné les ordonnances sur le sabbat, et Moïse n'avait pas dit qu'il fallait arrêter l'obligation de la circoncision le huitième jour, si c'était ce jour-là un jour de sabbat. Et Jésus en tire cette conclusion, c'est que le bien de l'homme, la circoncision, c'était pour le bien, ça avait été donné, n'est-ce pas, par Dieu à Abraham, afin que tout enfant soit incorporé d'une façon juste, selon la volonté de Dieu, soit incorporé dans le peuple de Dieu. C'était pour le bien de l'homme. Le bien de l'homme devait donc être placé au-dessus du sabbat. C'est cela qui était juste, qui était la volonté de Dieu. Alors, comment les Juifs pouvaient-ils reprocher à Jésus d'avoir guéri un homme tout entier, comme dit le Seigneur, le jour du sabbat, étant donné que guérir un homme le jour du sabbat, c'était aussi faire le bien de l'homme, c'était pour le bien de l'homme, si c'était un travail, c'était pas un travail plus conséquent que la circoncision, au contraire, puisque ça faisait agir la puissance de Dieu, il y avait même beaucoup moins à faire que pour la circoncision. La circoncision, il fallait prendre des pierres tranchantes, n'est-ce pas, et puis il y avait tout un processus qu'il fallait employer. Alors, donc, les Juifs étaient mal fondés à reprocher à Jésus d'avoir guéri un homme le jour du sabbat. La circoncision, qui était un signe de l'alliance traitée avec Abraham, donc avait en vue d'incorporer l'enfant au peuple de Dieu, mais dans la guérison, il y avait une œuvre qui tendait à la purification de l'homme, la purification tout entière, c'est pour ça que Jésus dit un homme tout entier, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps, et vous voyez encore là, n'est-ce pas, que c'est bien dans l'idée, dans la pensée du Seigneur, qu'une guérison doit être donnée, accompagnée de la purification du reste. Ça n'a pas toujours été peut-être le cas, n'est-ce pas ? On ne peut pas faire une règle générale et dire, quand il y a guérison, il y a toujours pardon des péchés, mais c'est la volonté de Dieu, là. Hein ? C'est la volonté de Dieu. Il y a des hommes, peut-être, qui vont soustraire, prendre, presque voler la guérison, n'est-ce pas ? Par une certaine foi, puis qui vont se reprendre et ne pas recevoir la purification des péchés. Mais la volonté de Dieu, c'est de purifier l'homme tout entier. C'est-à-dire, comme nous le dit Paul, l'homme tout entier, il vous sanctifiera tout entier, esprit, âme et corps. C'est pour ça, n'est-ce pas ? On revient à notre onction d'huile. L'onction d'huile n'a véritablement d'effet et ne peut entraîner la bénédiction d'une guérison que si vraiment on s'offre à une purification tout entière. Alors, il y avait là une œuvre de purification qui était tout de même plus importante. L'impotent avait reçu le pardon de ses péchés, le Seigneur l'ayant rencontré dans le temple et lui ayant dit, eh bien, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus, il lui avait dit. Va et ne pêche plus. C'était une incorporation, non pas d'un enfant au peuple d'Israël, mais c'était l'incorporation d'un homme à quoi ? Au royaume, au peuple du royaume de Dieu. C'était donc une action plus grande qui ne pouvait être mise en parallèle avec la circoncision, mais qui était encore plus grande. C'était un bien plus grand encore que la circoncision du corps. Ah, c'était la circoncision de l'âme, c'était la guérison, la purification d'un homme tout entier en vue du royaume. En vue du royaume de Dieu, c'était une œuvre bien plus grande. Et par conséquent, si on admettait la circoncision le jour du sabbat, comment ne pas admettre la guérison ? Vous voyez que les Juifs étaient donc, n'est-ce pas, tout à fait dans l'aveuglement, dans de mauvaises dispositions en reprochant à Jésus une guérison le jour du sabbat. Et c'est ainsi que Jésus leur dira ce que je viens de vous dire, explique la parole du Seigneur Jésus, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Les habitants de Jérusalem savaient bien quel était l'arrêt de mort qui avait été lancé contre la personne de Jésus. Aussi sont-ils étonnés de voir Jésus jouir au milieu des Juifs, des chefs des Juifs, une liberté en plein temple, liberté qui va jusqu'à pouvoir enseigner. Est-ce que, se questionne la foule, est-ce que les chefs auraient reconnu que c'est lui le Christ, il est bien le Christ? Mais ils sont arrêtés dans cette pensée parce que ils se disent, ils raisonnent entre eux, mais nous savons d'où il est cet homme-là, nous connaissons son origine, il a été élevé à Nazareth, et même ils se souviennent que sa naissance se situe à Bethléem, en tout cas il est né là, n'est-ce pas, nous savons, il a un père, une mère, des frères, des sœurs, toute une famille, nous savons d'où il est. Nous savons qu'il est le fils de Joseph et de Marie, puisqu'on croyait qu'il était le fils de Joseph. Alors, que pour le Messie, se dit la foule, le vrai Messie, on ne saura pas d'où il vient. Quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Il faudra qu'il soit sans origine. Il voyait le Messie comme Melchisédek. Voyez-vous, comme Melchisédek. Ben, Melchisédek était pour eux la figure du Messie. Et Melchisédek, on savait d'où il était. On ne savait pas, absolument pas d'où il était. C'est un personnage d'ailleurs mystérieux qui est venu là. C'est un envoyé de Dieu. Il était rendu semblable au Fils de l'homme, c'est-à-dire au vrai Messie qui allait dire. Mais eux, ils avaient fait cette confusion. Il n'a ni commencement, ni fin de jour. On ne sait pas d'où il est, mais pas d'où il vient. Et ils en étaient là. Alors ils se disent, ça ne peut pas être le Messie, puisque lui, nous connaissons ses origines. Mais ils n'avaient pas compris l'Écriture. Ils s'appuyaient sur une interprétation traditionnelle au milieu du peuple de l'Écriture, mais ils n'avaient pas compris l'Écriture. S'ils avaient compris l'Écriture, ils auraient lu dans Ésaïe chapitre 7, dans Ésaïe chapitre 9, ils auraient vu que la jeune fille deviendra enceinte. Ils auraient lu dans chapitre 9 que un fils nous est donné, un fils nous est donné à nous, peuple d'Israël. Donc, ce fils devait naître au milieu d'Israël. Il devait donc avoir une origine connue au milieu d'Israël. C'est ça ? Il déguisait cela au profit d'une interprétation s'appuyant sur un seul passage, s'appuyant sur la Genèse, passage où il est parlé de la rencontre d'Abraham avec Melchisédek. Il s'appuyait là-dessus. Et puis, tout ce mystère qui entourait la personne de Melchisédek. Ils auraient dû savoir aussi que le prophète Jérémie a dit « Un germe naîtra, sera donné à David ». À David, il devait savoir, il savait que le Messie serait fils de David. Alors, il devait naître dans la maison de David, par conséquent, dans une famille appartenant à la tribu de Judas. Il devait naître dans une famille, et par conséquent, on devait connaître ses origines terrestres. Il devait en avoir des origines terrestres. Mais, vous voyez là un cas qui est assez typique, d'acceptation sans contrôle d'une interprétation de tradition qui déforme la vérité. Et mes amis, nous avons encore ça. Et ça, moi, je lutte depuis longtemps, je lutte dans nos milieux évangéliques. Il faut faire attention, je dis quelquefois, alors nous allons devenir des catholiques. Si Dieu nous laisse encore quelque temps sur la terre, ben nous acceptons des interprétations toutes faites. Moi, je ne les accepte pas. Ce n'est pas que je veux être le révolté, mais je ne veux pas accepter a priori une interprétation, viendrait-elle d'un frère très estimé, d'un frère qui généralement dit des choses très exactes, n'est-ce pas? Eh bien, moi je veux être béréen. Et regarder les choses, y réfléchir moi-même. Et je vous assure qu'il y a des interprétations dans nos milieux évangéliques qui forment une espèce de classicisme cette tradition. Et puis, nous en arrivons souvent à ceci. Oh, ben, on accepte la chose, elle est toute faite. C'est une interprétation toute prête, un cliché, n'est-ce pas? Alors on le prend sans contrôle. Eh bien non, mes amis, il y a des choses que nous avons introduites dans notre foi ou notre manière de penser qui ne sont pas exactes. Alors tout de même, nous voulons être évangéliques, par conséquent nous voulons la vérité, rien que la vérité. Alors il faut faire attention à ces interprétations qui souvent d'ailleurs sont mauvaises parce que elles n'ont tenu compte ou elles ont tenu un compte trop large de la lettre et des mots. Alors ce sont des interprétations souvent trop littérales et qui n'ont pas laissé place à l'esprit. Vous savez que il est dit que la lettre tue et seul l'esprit vivifie. Et cela, c'est un grand principe de connaissance des Écritures. Pas d'interprétation particulière, nous dit l'apôtre Paul. Aucune prophétie ne doit faire l'objet d'une interprétation spéciale, particulière, personnelle. Aucune. Alors, s'il n'y a pas d'interprétation, la Bible étant une grande prophétie, étant dans son entier une prophétie, eh bien, il faut connaître la Bible par l'Esprit. Et c'est bien ce que je m'efforce de vous enseigner, de connaître la Bible par l'Esprit. Je vous ai parlé des parallèles dans l'analogie de la pensée, des parallèles qui ne sont pas tirés d'une concordance. La concordance peut nous tromper, peut nous égarer, je vous l'ai dit, parce qu'on va rapprocher un certain nombre de passages, parce que tous ces passages contiennent le même mot, par exemple. Hein? Or, ça, c'est un effet du traducteur, ça vient du traducteur, et ça ne veut pas dire que tous ces passages se rapportent à la même chose, à la même pensée. Or, il faut savoir, justement, par esprit, bien comprendre, n'est-ce pas, la pensée d'un passage, pour voir quels sont les autres passages qui concourent à établir la même pensée. Alors là, il faut les grouper dans un ensemble qui se construit, un ensemble, si vous voulez, de parallèles dans l'analogie de la foi. Parallèles dans l'analogie. Il faut bien faire attention. Ne pas accepter des clichés, des choses toutes faites. Nous en avons, hélas, trop. Ou de ne pas interpréter, bien sûr, l'écriture d'une façon littérale, en négligeant l'esprit. Et je ne veux pas ouvrir de problème aujourd'hui. Ah, c'est pas du tout mon intention, mais il y en a au milieu de nous certains problèmes très aigus et qui sont toujours mal vus, qui provoquent d'ailleurs des accords, hein, et tout cela parce qu'on a donné à certains passages des interprétations, on a plaqué là-dessus des interprétations littérales, hein, qui ne sont absolument pas bonnes. C'est par exemple, j'en citerai un seulement, l'histoire des cheveux des femmes. Ben, si on avait compris ce que disait l'apôtre Paul, eh bien, on ne ferait pas la loi avec ça. On saurait ce que ça veut dire. Ce n'est pas mon dessein de vous en parler ce matin, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous lisez le passage, si vous lisez bien, si vous voyez l'esprit dans lequel c'est écrit, vous verrez d'abord que Paul ne fait pas un commandement rigide, il n'a pas à faire une loi. Il ne peut pas faire la loi, lui, l'homme qui plaide précisément la grâce, n'est-ce pas, et non la loi. Il ne peut pas faire une loi rigide, mais il donne une indication précieuse, mais une indication qu'il faut comprendre par esprit. Et lorsque nous en faisons une prescription légale, eh bien, nous la déformons entièrement. La déformons entièrement. Bon, enfin, laissons. Ne discutez pas surtout des cheveux des femmes, parce qu'on en a assez discuté. Bah, laissez ça de côté. Il est vrai que les femmes doivent avoir des cheveux longs, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais la plupart du temps, le commandement est pris sous un sens littéral qui est très mauvais, et il aboutit naturellement à des solutions mauvaises. Bien garde à cela, mes amis, nous sommes placé dans le temple à grâce. Et il faut savoir avoir recours à l'Esprit de Dieu. Le Seigneur nous a bien prévenu, l'apôtre Paul nous prévient aussi. Il faut prendre pour conseiller, pour guide l'Esprit. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité, dans toute la connaissance de la vérité. Mais si vous vous attachez à la lettre, seulement à la lettre, comme on le fait quelquefois, la lettre, et puis on voit ça, un commandement, puis on ne voit rien d'autre, ben on l'isole de la vie. Alors, naturellement, on opérera des destructions et on fera du mal parce que il n'y a rien de tel que le légalisme réapparaissant au milieu de l'Église pour faire des destructions terribles. Le légalisme, chers amis, je vous conseille surtout, n'allez pas entre vous faire de légalisme et faire de légalisme à l'adresse des personnes qui entrent dans l'Église. Ah, mais il ne faut pas être comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, n'est-ce pas? Oh, que c'est horrible, ça! Sachez qu'à ce moment-là, vous faites un travail de destruction. Vous travaillez contre votre maître, contre Christ, qui n'a jamais travaillé de cette manière-là. Prenez bien garde, ça, c'est trop souvent qu'on a vu ça, n'est-ce pas? Et personne arrivant, ah, mais ici, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, n'est-ce pas? Et pourtant, l'apôtre Paul est là pour détruire une pareille manière de faire. N'est-ce pas? Ne mangez pas, ne prenez pas, faites ceci, faites cela, mais non, faites pas ainsi. Faites pas ainsi. Les enseignements de tolérance, qui ne sont pas des enseignements de tolérance à l'égard, bien entendu, de la volonté de Dieu. Non, pas à l'égard de la volonté de Dieu, mais les enseignements de tolérance qu'il faut savoir comprendre sous la plume inspirée de l'apôtre Paul sont extrêmement précieux et doivent nous mettre en garde contre cette manière de se comporter qui fait du mal, qui détruit, chers amis. Prenons bien garde à cela. Et nous terminons sur le verset, les versets 28 à 30, 28 à 30, et Jésus enseignant dans le temple s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. » Rien n'échappe au Seigneur Jésus, il va donc répondre à ce grief qu'on lui fait, que lui fait la foule, d'avoir des origines dans le sein du peuple. Il va s'écrier, c'est-à-dire il va prononcer cela d'une voix forte. À l'origine qu'il a sur la terre, il ne dit pas qu'il ait une origine sur la terre, bien sûr, puisque le Messie, nous l'avons vu, doit en avoir une. Il a une origine sur la terre qui est connue de tous. Eh bien, Jésus a cette origine au monde, une réalité qui jusqu'ici, malheureusement, n'a pas été acceptée au sein de ce peuple. Il est envoyé, l'envoyé de celui que précisément ses interlocuteurs ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Et connaître Dieu, c'est être un observateur de la loi de Dieu. C'est être soucieux de sa volonté, précisément. Ils ne connaissent pas Dieu. Les fils d'Élie, le sacrificateur, ne connaissaient pas Dieu. Pourtant, ils connaissaient la loi, n'est-ce pas? Ils étaient, eux aussi, sacrificateurs. Ils connaissaient la loi. Mais ils ne connaissaient pas Dieu à cause de leur conduite. Leur conduite montre qu'ils n'avaient pas de connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est donc une connaissance intime qui signifie observation de la volonté de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut déférer à la volonté de Dieu. Donc, le peuple ne le connaissait pas. Et pourtant, il est envoyé. Si le peuple l'avait vraiment connu, il aurait reconnu en Jésus l'envoyé de Dieu. Et celui qui l'envoie sur la terre est le vrai Dieu vivant, le seul qui puisse envoyer le Messie à Israël. Et du haut du ciel, le Père conduit le Fils, lui ouvre la voie et ne permet pas que le mal puisse l'emporter avant l'heure. La malignité, la méchanceté du monde qui va mener Christ à la croix ne doit pas s'exercer avant le temps. Le Père est là, qui veille à cela. Il cherchait à se saisir de lui. Personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Quand on est dans l'obéissance à Dieu, il y a des temps. Il y a des temps pour tout. Il y a des temps convenables, des temps prévus. Oh, chers amis, que c'est glorieux de marcher sous la conduite, sous la direction de l'Esprit de Dieu, lorsqu'on s'est abandonné pleinement au Seigneur, qu'on a perdu sa vie, n'est-ce pas ? Alors là, c'est magnifique, c'est là qu'on peut marcher sous la direction de Dieu. Et c'est une chose magnifique. Les temps se présentent, les temps convenables se présentent. On n'anticipe sur rien, on ne laisse rien passer non plus, on accomplit toute chose au temps voulu. Amen.